Donc, nous avons partagé le repas du Seigneur. Pourquoi? Pourquoi partageons-nous le repas du Seigneur? C'est parce que nous avons cru à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous sommes immergés dans l'eau pour manifester notre foi. Et depuis ce moment, depuis qu'on est devenu croyant en Jésus-Christ, chacun de nous, on s'efforce de devenir son disciple. On veut être disciple du Seigneur Jésus, qui veut dire on cherche à développer notre vie de chrétien. Développer notre vie de chrétien, ça prend du temps. Il faut un peu d'effort. Ce n'est pas une chose qu'on va assimiler, comme si on peut être devant une statue et méditer, et puis voilà, on devient comme ça. Ce n'est pas du tout l'idée d'un disciple du Seigneur Jésus. Alors, à noter, ce n'est pas au moment que vous étiez baptisé, mais au moment que vous avez cru dans le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu a mis en vous son Saint-Esprit. Il a mis son Saint-Esprit dans votre cœur, et le Saint-Esprit vous accompagne et vous dirige sur la voie de Christ. Et j'avais mis ce poster la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder, mais c'est tous les... La grande partie des œuvres du Saint-Esprit vis-à-vis du croyant depuis le moment que la personne croit en Jésus-Christ. Parce que Jésus avait fait la promesse dans Jean 14, 18, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et quand il a dit ça, il parlait du consolateur qu'il allait envoyer. Donc, il est mort, il est ressuscité, il a donné le dernier enseignement aux disciples, puis il est monté au ciel et il a réclamé le Saint-Esprit qu'il a envoyé le jour de la Pentecôte. Et c'est le Saint-Esprit qui cherche à développer en nous la vie du chrétien. Mais il ne le fait pas sans nous. Hein. Ce n'est pas que voilà la marionnette. C'est une collaboration. Nous marchons avec Dieu. Donc, Paul a dit, marchez avec l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Philippiens 2, versets 12 et 13, nous lisons. Vous pouvez chercher si vous voulez, mais je vais essayer de progresser. Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ce n'est pas « reposez-vous dans le Seigneur Jésus, maintenant que vous êtes chrétien, tout va bien ». Non, il a dit « travaillez ». Il dit « avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, dans la présence du missionnaire, de l'apôtre, etc., mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit, donc en parlant du Saint-Esprit, qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir ». Donc, on est croyant en Jésus-Christ, ça veut dire que Dieu s'occupe de nous. On n'est pas orphelin. Il ne nous a pas abandonnés. Il marche avec nous. Et nous devons marcher avec lui. C'est pour cela que j'utilise le mot collaboration. On marche ensemble. Donc, c'est l'œuvre ou l'effort de chaque chrétien par le moyen de la parole de Dieu. Et, voilà le mot encore, et en collaboration avec le Saint-Esprit, qu'on a en vue ici. Bien sûr, évidemment, il y a des frères et sœurs dans l'Église, dans l'Assemblée, qui vont nous aider aussi. C'est sous-entendu qu'on n'est pas chrétien isolé. Hein? On est chrétien entouré. Autant que le Saint-Esprit est en moi, eh bien, il est en des autres chrétiens aussi. Et donc, on aide les uns et les autres. Étant devenu croyant, on va se débarrasser de certaines choses. Et on va se revêtir d'autres choses. Il y a l'avant. On va dire, je ne vais plus faire ces méchancetés. Je suis d'accord. Christ est mort pour ces choses-là. Je ne fais plus. Et je dis, maintenant, Dieu veut que je marche comme ça. Donc, il y a une transformation dans la vie. Donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est d'approfondir un peu l'œuvre du Saint-Esprit en, dans chacun de nous en ce qui concerne l'évangélisation. Okay? Donc, c'est en focalisant cet aspect de l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui. Mais pour rappeler, il y a 3 semaines, enfin 3 dimanches, nous avons réfléchi ensemble sur les paroles de Jésus. Vous êtes, donc vous êtes individuellement la lumière du monde et vous êtes individuellement le sel de la terre. C'est pour ainsi dire, chaque chrétien est dans ce monde depuis sa conversion à Jésus pour être lumière et sel. Chacun d'entre nous. Ce n'est pas que voilà, la moitié des chrétiens sont lumière et la moitié est sel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est chacun de nous. Ce que j'avais dit à l'époque, nous sommes lumière et nous agissons comme sel. Dimanche dernier, j'ai parlé du sujet de ce que nous sommes ensemble. En tant qu'Église, ce que nous sommes et ce que nous faisons ensemble, c'était plutôt l'aspect ensemble. Nous sommes croyants bibliques et ensemble, nous essayons d'honorer le Seigneur Jésus à travers donc, l'existence de notre assemblée locale qui est, nous, j'espère, c'est la vérité pour nous tous, nous sommes volontairement soumis à la parole de Dieu. Il n'y a personne qui nous cogne sur la tête. Vous devez. Non, c'est la parole qui nous encourage de suivre la vérité. À la fin du dernier message, j'ai demandé, sommes-nous prêts ensemble à recevoir des convertis? Sommes-nous prêts? Après, je n'ai pas dit comme ça, mais je le dis aujourd'hui, sauras-tu, donc je vais le mettre au personnel, sauras-tu individuellement prêt à prendre en charge un nouveau converti et lui enseigner les principes élémentaires du disciple pour être un disciple du Seigneur Jésus? Hein? Où est-ce que vous êtes dans cette chose? Sommes-nous ensemble prêts à le faire, capables de le faire et prêts à le faire? Et individuellement, êtes-vous prêt et capable de le faire? C'est dans ce sens-là que je vous donne de temps en temps les papiers pour que vous soyez un bon disciple du Seigneur Jésus. Je donne un enseignement que je vais mettre sur le papier et puis je vous le donne. Parce que non seulement je voudrais que vous compreniez bien telle chose, mais aussi que par la suite, vous allez pouvoir communiquer ça à quelqu'un d'autre. Donc, on a vu soit ensemble, soit toute seule avec la personne peut-être, mais j'ai donné une base de disciples, c'est un multifeuille. Hein? Et il y a aussi, il y a plein de documents de l'Église, j'ai donné des papiers, on a vu ça ensemble, l'interprétation des Écritures. Plus récemment, je vous ai donné un livre qui s'appelle l'Église biblique locale. Donc, si vous n'avez pas ces choses ou j'oubliais ou quelque chose, il faut simplement me dire, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Et puis, je vous le donne, c'est pas un problème. Mais ce sont des choses vraiment les fondements de qui nous sommes en tant qu'assemblée. Et des fois, ce que nous sommes en tant que disciples du Seigneur Jésus. Donc, dans le prochain avenir, je vais vous donner autre chose, autre littérature, qui doit, comme j'ai déjà dit, vous aider, vous, dans votre vie de chrétien, mais aussi que vous pourrez utiliser dans d'autres contextes, avec d'autres personnes, dans l'évangélisation ou en contexte d'aider quelqu'un à être un bon disciple du Seigneur Jésus. Par contre, il n'y aura pas les convertis si on ne proclame pas l'Évangile. Donc, c'est bien qu'on soit prêt à prendre les convertis et les aider à faire les démarches avec le Seigneur en tant que croyant, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas les convertis, ce n'est pas utile d'être prêt parce que c'est inutile. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je focalise un peu plus sur l'évangélisation. On aura un évangéliste dans 2 semaines. D'ailleurs, dans les suggestions que j'ai reçues, il y avait qui voulait qu'on fasse plus d'évangélisation dans le cadre de l'échange culturel. Donc, je ne vais pas aborder le sujet pour l'instant, mais le fait, c'est qu'on fait certaines choses pour évangéliser à travers l'année. Par exemple, les conférences d'évangélisation. Déjà, il faut inviter vos amis, vos voisins à ces conférences-là. Ou parlez vous-même du Seigneur Jésus. Ce n'est pas qu'on doit focaliser sur l'échange culturel pour évangéliser, mais on doit avoir dans notre cœur le cœur d'évangélisation. Et quand on a l'opportunité, on invite ou on explique l'Évangile. Jésus a annoncé dans Actes 1:8 l'arrivée du Saint-Esprit. Et en faisant cette annonce, il a proclamé la puissance du Saint-Esprit, qu'il allait exercer cette puissance à travers les disciples dans l'œuvre de l'évangélisation. C'est dans Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu, dans ce verset, dit, donc parce qu'il y a plein d'autres choses que Dieu fait avec le Saint-Esprit dans notre vie, mais dans ce verset, il parle du Saint-Esprit et de l'évangélisation par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a donné. C'est la première explication après que Jésus va, enfin, juste quand il va partir au ciel. Dieu veut que chacun d'entre nous, selon la mesure des dons que Dieu nous donne, entre dans cette œuvre d'évangélisation. Donc, la nouvelle question, êtes-vous prêt à évangéliser? C'est ça la question pour ce matin. Êtes-vous prêt à évangéliser? Es-tu prêt à évangéliser? L'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, versets 14 et 15, « N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Jésus. Alors, je reprends le mot déjà avec douceur et respect. Parce qu'on peut agresser les gens quand on évangélise. On peut être disrespectueux. On peut parler d'une manière que moi, je suis mieux que vous, etc. Hein? Et non, quand on dit avec douceur et respect dans ce verset, il parle de l'attitude, de la présentation. Il ne faut jamais vous imposer sur les autres personnes. Là, je ne parle pas d'une prédication en plein air. Une prédication en plein air, vous prêchez, et puis les gens qui veulent écouter s'arrêtent, et les gens qui ne veulent pas écouter, ils continuent. Hein? Ça, ce n'est pas imposé. Mais quand je parle avec quelqu'un, donc, je ne veux pas abuser d'eux. Donc, si quelqu'un ne veut pas m'écouter, il a le droit à ne pas m'écouter. Ça ne va pas l'aider à aller au ciel, s'il ne veut pas entendre. Attention, OK? Mais il est utile, quand vous évangélisez quelqu'un, hein, vous avez entamé une conversation, il est utile à demander permission de continuer. Voulez-vous que je vous explique? J'ai entendu Pierre faire ça souvent. Voulez-vous que je vous explique l'Évangile ou quelque chose comme ça? Hein? Il me semble que j'ai entendu ça plusieurs fois. Quand on demande la permission, vous tournez le feu rouge en feu vert. Vous comprenez? Il vous dit, oui, explique-moi ça. Alors, vous expliquez. Il veut entendre. Vous avez des gens avec les oreilles ouvertes, peut-être. OK? En même temps avec la douceur et le respect, En même temps, et avec l'aide de Dieu, il faut annoncer l'Évangile avec une zèle ou une hardiesse ou une pleine assurance. Et c'est cela qui nous manque. Nous manquons cette assurance. Nous, on est plutôt, comme on va voir par la suite, craintifs. Ah, mais je ne veux pas parler, il va m'insulter. Il veut rien entendre. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas si l'autre personne veut entendre. Sauf s'il dit. Donc, il faut poser des questions. C'est pour ça qu'il faut poser des questions. Pierre a dit, n'ayez de aucune crainte. Ne soyez pas troublés. Donc, Pierre, quand il a donné cette verset que j'ai lu tout à l'heure en 1 Pierre chapitre 3, il parlait des persécutions. Les chrétiens évangélisés, ils étaient persécutés. Il dit, n'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais ils vont vous battre peut-être. Et puis il dit, n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur et soyez pas troublés. C'est un peu contradictoire, non? Oui, non? Ben, il ne nous tape pas en France. Il nous tape pas et on a peur. Si il nous donne un petit mauvais oeil, quelque chose, tout de suite on a peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Ne soyez pas troublés, dit l'apôtre, en ce qui concerne l'évangélisation et la réaction des autres vis-à-vis de vous à travers l'évangélisation. Alors, vous ne savez peut-être pas, vous n'avez peut-être pas réfléchi à ce sujet, mais Paul a demandé pour lui-même, compris dans ce domaine. En Éphésiens chapitre 6 et verset 20, je ne vais pas le lire. Mais Paul a dit, priez pour moi, afin que j'ai la hardiesse de parler comme je dois parler. Pourquoi Paul a parlé? Pour que les autres prient, pour que lui parle comme il faut. Parce que il avait peur. Vous n'aurez pas peur si vous devez aller devant, le président actuel, c'est... Qui est le président actuel? Macron. Et lui a l'autorité de vous mettre à mort.
Emmanuel
Macron. Et si vous devez expliquer l'Évangile devant cet homme, et qu'il avait, ce n'est pas le cas, mais qu'il avait le droit à vous mettre à mort s'il n'aimait pas votre message, est-ce que vous aurez peur? Paul devait aller devant Néron. Hein, Néron, le fou, qui a tué beaucoup de chrétiens. Il devait expliquer l'Évangile devant celui-là. Et il avait peur. Donc, il a demandé qu'on prie pour lui. Donc, il parle comme il faut. Donc, si Paul avait besoin qu'on prie pour lui, c'est qu'on doit prier les uns aussi pour les autres et pour le pasteur, etc. Pierre a dit, « Étant toujours prêt. » Donc, quand vous allez partager l'Évangile avec quelqu'un, vous êtes en train de dire à ces gens-là qu'il faut croire en Jésus-Christ et le suivre. L'Évangile n'est jamais « faut croire en Jésus-Christ et ne pas le suivre ». Il a déjà dit « suivez-moi, je vous ferai pécheur d'homme ». Il attend que les gens qui croient en lui deviennent ses disciples. Souvent, il a dit ça à Matthieu, etc. « Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi ». On annonce « croire en Jésus-Christ ». Il faut croire en Jésus-Christ et le suivre sur le chemin de la vie. Être toujours prêt signifie de vous préparer d'avance. Oh ben non, on ne prépare pas l'Évangile. Si, vous préparez l'Évangile. Si jamais vous aurez un pasteur dans cette église et que vous voulez qu'il soit préparé pour être un pasteur. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous avez un boulanger, eh ben le boulanger s'est préparé pour devenir boulanger. On se prépare pour tout ce qu'on fait. Soyez toujours prêts à partager, par exemple, Jean 3,16. Vous pouvez le faire. Vous avez probablement déjà mémorisé Jean 3,16. Expliquez chaque mot. Ça vous prendrait une demi-heure de commencer. Dieu a tant aimé le monde et expliquer chaque mot, chaque phrase, ça vous prendrait une bonne demi-heure. Ça, c'est une moyenne pour évangéliser. Soyez prêts à montrer quelques versets clés à travers l'Épître aux Romains ou à travers l'Évangile de Jean ou le premier Épître de Jean. Il y a des mots-clés que vous pouvez focaliser sur ces choses-là. Vous pouvez mettre de feutre sur les versets dans votre Bible. Donc, Pierre a fait ça. Il met ces feutres que tu mets. Hein? Et autrement, ce que je vais faire ce matin, et j'ai fait distribuer les réglettes. Regarde, j'ai même fait un agrandissement sur le mur. Je voudrais vous enseigner une méthode, parce que ces réglettes peuvent être utiles. Déjà, quand vous parlez avec quelqu'un, vous pouvez leur montrer l'information en bas, sur le côté ici. Vous voyez? Centre biblique, passage à Bellemonerie, l'adresse, le mail, courrier, et puis le site de l'église. Donc, ça, c'est déjà quelque chose. Vous donnez ça, vous pouvez vous renseigner. Ça, c'est vraiment de rien. Hein? Vous pouvez même prendre deux, trois. Il ne faut pas prendre trop à la fois. Vous pouvez prendre deux, trois et demander au boulanger, est-ce que je peux laisser ça là? Que les gens les prennent. Et vous savez, les gens vont les prendre. Hein? Des fois, quand vous donnez quelque chose de papier, il ne veut pas. Mais si vous donnez quelque chose de matériel, qui c'est utile, eh bien, ils sont heureux. Ils vont peut-être utiliser ça. Ah, cette chose-là, c'est n'importe quoi. Mais ils ne vont pas les jeter, ils vont l'utiliser. Et puis, leur collègue va voir ça. Ah, Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez? Parce que peut-être lui n'est pas intéressé, mais quelqu'un d'autre peut-être serait intéressé. Donc, sur ce côté, vous voyez déjà, sache-le, Dieu t'aime. Ça peut être un point de départ pour une conversation. OK? Que ça! On a les petites images là. Juste montrer, Dieu vous aime. Quoi? Je ne crois pas en Dieu. Ben, il faut suivre la conversation. Ah bon, Dieu m'aime! Il faut suivre la conversation. Oui, Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Vous voyez, vous pouvez prendre simplement un point, le petit livre-là, avec cette phrase, et démarrer une conversation. Et puis, à l'autre côté, on a les deux tablettes. Donc, les deux tablettes, ça représente la loi. Hein? Moïse, il avait les deux tablettes, hein? Les 10 commandements. Et quand il est descendu de la montagne, il les a cassés. Vous vous souvenez de l'histoire, n'est-ce pas? Mais Jésus a dit, toute la loi est résumée dans deux principes. Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Donc, je n'avais pas la place pour tout mettre, donc j'ai mis, aime Dieu, aime ton prochain. Ça, c'est les deux grands principes et tout le monde fait faillite vis-à-vis de ces deux principes. Il n'y a personne qui aime Dieu à 100%. Peut-être on aime Dieu à 2%. Et qui aime son prochain? J'aime mon prochain, mon voisin par exemple. J'aime quand il me donne les légumes de son jardin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce qu'on vraiment on aime les gens qui nous entourent? À 100%? Non. Qui veut dire qu'on est tous coupables. Et donc de là, vous pouvez sortir en parlant, tous sont coupables, donc tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et continuer une conversation sur l'Évangile. Donc sur la tablette, il y a déjà Jean 3, 16 sur ce côté, et Jean 3, 17 sur l'autre côté. Donc déjà, vous avez deux versets bibliques sur la réglette. Mais vous pouvez aussi utiliser la réglette comme un appui pour raconter l'histoire de l'Évangile d'une autre manière. Et c'est ça que je voudrais vous expliquer ce matin. Vous n'êtes pas obligé de mémoriser, mais c'est simplement l'idée que je voudrais vous communiquer ce matin. Ça s'appelle le livre sans parole. Qui connaît déjà cette histoire, le livre sans parole? Pas beaucoup de monde. Ah! Vous allez connaître à partir d'aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs, il y a cinq couleurs d'ailleurs. ici. OK? Il y a 6 couleurs, en fait, mais 5 couleurs principales. Et donc, dans le temps, j'avais fait des cartes. C'est les mêmes couleurs. OK? Avec un site web. OK? J'utilisais ça. J'ai beaucoup évangélisé des musulmans avec cette carte-là. Ça arrive que ce sont des couleurs que les musulmans aiment bien. Je ne sais pas pourquoi, mais... Et donc, j'expliquais l'évangile à partir de ces couleurs-là. Quand on fait ça avec les enfants, à l'origine, c'était un petit livre en feutre avec les couleurs, les 5 couleurs. Et chaque couleur représente un principe dans l'évangile. Donc, il y a les 5 couleurs dorées. Donc, là, ça doit être doré, OK? C'est pas de l'or, c'est même un peu marron, mais c'est doré. Après, il y a blanc, dont le blanc est ici. Après, il y a noir. Le noir, c'est le texte et les chiffres. Après, il y a le vert. Le rouge, excuse-moi. Le verset est en rouge. Et le vert, c'est la couleur de fond de l'autre côté. Chaque couleur représente un principe. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Donc, le fond doré, ici, le fond doré représente le paradis céleste, la ville céleste. La ville éternelle, ça représente l'idée d'aller au ciel. Ça représente, c'est très souple comme vous expliquez l'évangile, le bonheur éternel, la demeure de Dieu. Tout le monde, même les athées, veulent aller au ciel. S'il y a un ciel, s'il y a un paradis, l'athée veut y aller. Il ne croit pas. Mais si ça existe, il veut. Mais de toute façon, ils sont tous des non-croyants. Donc l'athée n'est pas différent que le reste. Ça va tout le monde? OK? Si vous pouvez l'expliquer, si vous pouvez lui persuader qu'il y a un Dieu et qu'il y a un paradis, eh bien, il va vouloir y aller. Le blanc, ici, donc on montre le blanc, ça représente ce qui est pur, ce qui est juste, ce qui est saint. Donc, le paradis céleste, le fond, est pur et saint. Car c'est la demeure de Dieu. Dieu est saint. Dieu est absolument saint. Et rien ni personne ne peut entrer dans la présence de Dieu avec le moindre défaut, avec un quelconque péché. Et nous, on est plein de péchés. Donc voilà le noir. Plein de noir. Hein? Partout, le noir. Le noir représente le problème. Donc, il y a des versets que vous pouvez utiliser, choisir les versets que vous aimez. Le problème est grave. Ce n'est pas une simple affaire, c'est majeur. Le noir représente nos fautes, nos péchés. Ce sont nos péchés qui nous empêchent d'aller au ciel. Donc, il faut être absolument pur pour aller au ciel. Mais non, on est tout noir, on est tout plein de péchés, donc on ne peut pas accéder dans le paradis céleste. On ne peut pas aller dans le bonheur éternel. Nous sommes absolument disqualifiés à cause de nos péchés. On est disqualifiés à cause de nos péchés. Encore pire, Dieu juge et condamne les pécheurs. Et donc, le noir, c'est le désespoir. Parce que si on arrête l'histoire là, on a dit que voilà, le paradis existe et il faut être absolument saint pour y être. Et on est pécheur, et bien là, c'est vraiment... Il n'y a pas d'espoir là. Donc, le noir, c'est le désespoir à cause de nos péchés. À cause de nos péchés. Et à cause de nos péchés, on mérite quoi? On mérite la punition. Mais Dieu ne veut pas que les gens vont en enfer. Il ne veut pas que les gens aillent dans le lac de feu éternel. Donc, c'est à ce moment-là, quand je parle avec des gens, que moi, j'aime bien leur poser les questions. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire pour effacer vos péchés? Parce qu'il y a presque personne qui est suffisamment orgueilleux pour dire qu'ils n'ont jamais rien fait de mal. Quelques-uns, mais très rares. Alors, je leur pose les questions. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire? Alors, vous dites, oui, mais pourquoi vous voulez poser cette question? Et c'est parce que vous allez demander à cette personne plus tard à changer d'avis, à se repentir, à ne plus croire qu'il peut faire ça, mais de croire que Jésus a tout fait. La repentance biblique, c'est un changement de faux espoir à la vraie le vrai espoir en Jésus-Christ. Que pouvons-nous faire pour effacer le noir? Donc, on fait une référence toujours. Que pouvons-nous faire pour effacer le noir, pour devenir blanc, afin de pouvoir accéder dans le bonheur éternel? Quelle est votre idée? Arrivons à raconter toutes les œuvres humaines et tout ça, tout ça. Chaque personne aura son idée différente, mais globalement, ça revient toujours. Dieu va peser le bien et le mal. Et le bien, si c'est plus lourd, on ira au ciel. Et si le mal est plus lourd, on ira en enfer. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça que tout le monde veut aller au ciel. Et vous savez quoi? Personne n'irait au ciel comme ça. Personne. Isaïe 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice, le mieux que nous sommes, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Et puis Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, le salut n'est pas par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dieu ne veut que personne puisse dire, « Ah, ben, je suis tellement bien, Dieu, donnez place parce que c'est chez moi. » Non, Dieu n'accepte pas un tel orgueil chez lui. Mais il y a une solution. Et maintenant, vous allez montrer le rouge. Le rouge. Parce que, d'après vous, le rouge représente quoi? Qui a dit ça? Le sang. Il n'y a pas beaucoup de choses bien. Tout le monde connaît rouge. Mais quand je pose cette question, presque tout le monde dit, « Oh, même les non-croyants, même les athées, le rouge, c'est le sang. » C'est curieux comment ça se fait. Le rouge représente la solution car il y a un moyen unique pour effacer le noir, le péché. Dieu a prévu une solution unique. Le rouge, c'est le sang de Christ. Le Fils de Dieu a versé son sang sur la croix il y a 2000 ans afin d'effacer le péché du monde. Il est mort sur la croix, il a été enterré dans une tombe, il est revenu à la vie le troisième jour après sa mort. Jésus a vaincu la mort en son, et son Père a accepté son sacrifice pour vos péchés. Dieu dit que le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. De tout péché. Il faut insister, tout péché. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Maintenant donc, grâce au rouge, le rouge efface le noir qui nous rend pur afin que nous puissions accéder à le bonheur éternel ou au paradis. Ainsi, si vous croyez en Jésus-Christ, Dieu efface tous vos péchés, il vous purifie. Rien d'autre est efficace. Rien d'autre est efficace. Pas les richesses, pas la religion, pas les rites, pas un héritage quelconque. Rien n'est efficace autre que le sang de Jésus-Christ. Donc, en résumé, le rouge efface le noir et vous rend blanc afin que vous puissiez entrer dans le doré. Donc, en biblique, le sang de Jésus efface tous vos péchés et vous rend pur pour que vous puissiez entrer dans le bonheur éternel, le paradis céleste. Et donc, j'ai bien apprécié ce que fait Pierre. Il pose la question, avez-vous compris? Et il revoit les choses. C'est important de faire ça. Donc, vous revoyez la chose. C'est quoi, donc, le doré? Qu'est-ce que vous avez compris de mon petit, hein? Qu'est-ce que vous me dites? C'est quoi le doré? Le ciel. OK? C'est quoi le blanc? La pureté ou la sainteté. C'est quoi le noir? Le péché, le mal, tous ces domaines-là. Et c'est quoi le rouge? Le sang de Christ. Donc, vous vérifiez qu'ils ont compris de quoi vous parlez. Et vous voulez savoir à la fin s'ils veulent bien aller au ciel, s'ils ont bien compris le message. Qu'est-ce qui les empêche d'y croire, d'accepter Jésus comme leur sauveur? Donc, une question quelconque, comme ça, voudriez-vous aller au paradis pour vivre dans le bonheur éternel? Et ils vont dire, non, je ne veux pas. Bon, conversation finie. S'il ne veut pas de Jésus, il ne veut pas de Jésus. Mais s'il veut de Jésus, ils peuvent l'accepter sur place. Alors, sur le verso, c'est le vert. Sur le verso de la réglette se trouve la couleur verte. Donc, le vert représente ce qui est vivant. Quand une personne accepte Jésus-Christ comme sauveur, elle reçoit une nouvelle vie. OK? Croire en Jésus-Christ est le début d'une nouvelle vie. Et c'est pour cela que Dieu appelle ça la nouvelle naissance. Non seulement Dieu pardonne et efface tous nos péchés, mais par la nouvelle naissance, la naissance spirituelle, Dieu accorde dès ce moment, dès le moment qu'on a cru en Jésus-Christ, la vie éternelle. Le nouveau croyant, donc, il a besoin d'apprendre ce que ça veut dire d'être croyant. Comment devenir disciple, un ami de Jésus. Ainsi, donc, le vert représente la croissance dans la vie chrétienne. Donc, vous pouvez demander encore si la personne a bien compris. Voudriez-vous ouvrir votre cœur pour recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur? Parce que c'est pourquoi vous évangélisez, pour que ceux qui veulent puissent accepter Christ comme leur sauveur. Et répétez le principe, le rouge efface le noir et vous rend blanc afin que vous puissiez entrer dans le doré, le sang de Jésus-Christ, efface tous vos péchés et vous rend pur pour que vous puissiez entrer dans le bonheur éternel, le paradis céleste. Après, il y a des choses aussi à discuter. Si quelqu'un accepte Jésus, donc vous allez lui donner quelques conseils pour démarrer, vous inviter de vous rejoindre, etc. C'est une présentation, hein? C'est pas la seule. Donc, ce que j'ai préparé aujourd'hui, tu veux distribuer ça? Laisse-moi un. Donc, j'ai mis plein de versets que vous pouvez apprendre, pas tous, mais peut-être tous, ça dépend si vous avez un grand cerveau ou un petit cerveau. Vous pouvez tous mémoriser. Mais ce sont des versets clés à utiliser dans l'évangélisation. Peut-être vous avez d'autres versets que vous préférez utiliser, mais au moins je vous donne ces versets-là. Donc, verset pour l'évangélisation. Pourquoi évangéliser? Comment évangéliser avec la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit? Qu'est-ce que l'évangile? Il faut être clair sur c'est quoi. L'évangile est un événement historique que Dieu a subi à votre place. Et puis, il y a les clés, les versets clés. Donc, il y a une suite en l'Épître aux Romains, il y a une suite dans l'Évangile de Jean, il y a une suite dans le premier Épître de Jean, et puis il y a plein d'autres versets là. OK? Aussi, je vous ai préparé, c'est-à-dire j'ai fait des photocopies. Donc, au début, quand j'étais avec le petit groupe à l'origine, on a créé une étude à travers ce livret. Et je ne vais pas revenir 600 dans le passé pour le refaire. Okay? Mais je vais donner ça à vous tous. C'est des pensées, comment répondre quand les gens disent « Ah ben non, je ne suis pas suffisamment bien pour croire en Jésus, etc. » Donc ça donne quelques réflexions, on dit apologétiques, comment aider les gens à surmonter leurs objections. Okay? Mais c'est aussi une façon de présentation de l'Évangile. Et parce que je n'ai pas attendu que vous mémorisez tout ce que j'ai dit, donc là c'est la même chose plus ou moins que je viens de dire, mais sur un petit papier. Vous n'êtes pas obligé de garder cette histoire comme ça. C'était développé dans le 19e siècle. Et à vrai dire, j'ai utilisé ça de plusieurs méthodes. Quand j'étais dans la région parisienne, je faisais un sondage. Et au bout du sondage, j'avais 5 traits de couleur. Et je faisais référence simplement à ces cinq traits de couleur sur le sondage pour demander ce qu'ils pensaient de cette couleur-là. Et de là, je parlais de l'histoire sans parole, de livre sans parole. D'accord? Donc, c'est à vous de voir. Moi, je vous présente ça comme un moyen d'évangélisation si vous avez à faire de l'utiliser. Sinon, ne l'utilisez pas. Mais comme on a plein, hein, on a 2000 de ces choses, ben, il serait bien de les utiliser, que vous donnez ça à votre voisin, à votre boulanger, à votre ennemi, etc. Hein? Que vous donnez ça à quelqu'un. Et il ne faut pas que je trouve dans un an qu'il y a 2000 qui restent. Ça veut dire qu'on n'a rien fait. Mais on a la possibilité d'utiliser cette moyenne-là. Et c'est un moyen comme un autre. OK? Donc, comme Pierre a souligné en feutre les versets. Mais vous pouvez prendre les versets qui sont là, vous pouvez écrire à la main sur une feuille carte de visite, et vous pouvez montrer ça, tel verset, à quelqu'un simplement à travers la carte que vous avez fait à la main. Ou vous ouvrez votre Nouveau Testament et vous montrez un après l'autre. Donc Pierre va nous donner plus tard un cours sur ce thème. Donc je ne vais pas tout dire, mais je vous prépare. C'est ça qui va nous faire un cours, n'est-ce pas? Un petit cours. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aide. OK? C'est vraiment le point principal. N'ayez pas peur. C'est ça. Parce que à n'importe quel moment, vous pouvez entrer dans une discussion évangélique avec quelqu'un. OK? Vous n'êtes pas besoin d'utiliser, vous n'avez pas besoin d'utiliser ça, mais ça peut être utile. Mais n'importe quel thème pourrait ouvrir une conversation envers l'Évangile si la personne veut poursuivre. C'est pour ça que toujours vous êtes sensible à l'autre personne qu'ils veulent poursuivre cette idée. Parce que, étant évangélique, vous voulez annoncer la bonne nouvelle. Parce que c'est une bonne nouvelle. Et sinon, la personne ira dans le lac de feu pour l'éternité. Et Dieu ne veut que personne y aille. Donc, vous avez une bonne nouvelle. OK?